Attends, je te me laisse aller au bout. Je me laisse aller au bout. J'ai d'abord examiné les hommes et j'ai cru que dans cette infinie diversité des lois et des mœurs, ils n'étaient pas conduits par leur seule fantaisie.
Je marche bien.
Qu'est-ce que tu dis ?
Les gars.
Non.
Non, c'est la vue.
Non.
Marie de Montaigne.
Bravo.
Quoi ?
Qui a dit ça ? Yes. Bravo, bravo Sacha, c'est Montesquieu. Je ne sais pas d'ailleurs du tout pourquoi j'ai noté ça là. Ça n'a à peu près rien à voir avec la suite, mais c'est quand même une bonne entrée en matière. Alors, je vais vous parler, alors dans le mail, les princes qui sont bien méritants, mais qui ont leurs limites aussi, ils ont dit il y aura une conférence sur Pax Nostra, entre guillemets, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est un livre, si c'est un truc, je te connais pas, Non, mais vous auriez pu mettre un peu plus de... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Pax Nostra, c'est un livre. Enfin, c'est un livre, c'est d'abord une citation de l'Épître aux Éphésiens. Ipse enim est Pax Nostra. Je pense que c'est ça, soit Éphésiens 2 quelque chose, 2.16 ou je sais plus quoi, 2.14.15, voilà. Alors c'est un livre qui a été écrit par un jésuite dont je vais d'abord vous parler quelques minutes parce qu'il est peut-être pas si connu que ça, et ensuite j'essaierai de vous résumer très grossièrement mais dans un langage châtié quand même le contenu de ce livre qui de fait en le retravaillant là je me dis c'est quand même étonnant de on dit toujours ça quand on s'apprête à faire une conférence, mais c'est étonnant d'actualité. Il y a vraiment quelque chose, il y a un discernement alors, qui a été mené dans les années 30. Bon, c'était un autre contexte historique, mais voilà, l'actualité malheureusement nous oblige à dire que ce qu'on croyait peut-être évident, que l'Europe était en paix, serait toujours en paix. Enfin, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de fragilité dans l'ordre politique international, y compris en Europe d'ailleurs, et que ce type de réflexion qu'on pouvait penser datée finalement a quand même une certaine pertinence. Alors donc, c'est Gaston Fessard, l'auteur de ce livre. Il est né alors en 1800... entre 1800 et 1900. Mais à un moment précis, quand même. Ça n'a pas duré un siècle, ça. Non, il est né en 1897, je crois, un truc comme ça.
Exactement.
C'est vrai ? Bon, c'est vrai ?
97.
Yes ? Qui a dit ça ?
Google.
Bon. Il est entré, c'est une vocation tardive, il est entré chez les jésuites à l'âge de 16 ans. C'est autre époque. Non, mais c'est marrant, mais à cette époque-là, on entrait très très tôt. Sainte Thérèse de Lisieux, elle avait quoi, 14 ans, donc, 15 ans, quand elle est entrée chez les. Et en fait, c'est un homme qui est. C'est vraiment un jésuite au sens où c'est un homme qui est entièrement habité par la spiritualité ignatienne. Voilà, c'est vraiment un homme qui a rencontré qui a rencontré un saint, qui a rencontré Saint Ignace, qui a rencontré sa pensée, et on pourrait dire que toute son œuvre à la fois intellectuelle et pastorale, ça a été de déployer dans des domaines pas très courants, enfin qu'on n'associait pas tellement à Saint Ignace de Loyola, l'intuition spirituelle de Saint Ignace telle qu'elle se codifie notamment dans le livret des exercices spirituels, qu'on assignait traditionnellement à la théologie spirituelle, à la vie spirituelle. Donc on parlait des exercices pour la question des retraites de discernement. Mais bon, c'est un champ assez restreint même de la théologie. La théologie spirituelle, malheureusement, c'est même un peu le parent pauvre de la théologie. Et Gaston Fessard a eu cette intuition qu'il n'a cessé de creuser, de présenter. Il a eu des tas d'auteurs, il était surtout philosophe. Plus que théologien, mais toujours dans une optique, c'est que toutes ces grandes pensées, notamment Hegel, il a beaucoup travaillé Hegel, d'abord Maine de Biran, Blondel, Hegel, connaît admirablement Marx, mais que toutes ces grandes pensées lui donneraient le langage pour manifester la rationalité à la fois philosophique et théologique qui est cachée dans la dialectique des exercices spirituels. Et qui, en gros, on pourrait dire, c'est quel est le verbe associé à la liberté. Ce qui est une question très très complexe, en fait. Vous voyez pourquoi ? Parce que le verbe ou la rationalité, spontanément, nous la voyons comme enfin, surtout dans nos usages un peu scientifiques, on a beaucoup de mal à voir comment une liberté peut se dire, comment un acte peut se dire, comment un choix peut se dire sans se nier lui-même. Donc, quel est le langage qui me permet de mettre, de faire venir au jour le fait que j'ai fait tel choix et pas tel autre? Quel langage aussi, alors cette fois en amont de la décision, qui m'aide à engager ma liberté dans telle direction et pas dans telle autre? Alors, c'est évidemment la question qu'on se pose quand on fait une retraite de discernement à l'école de Saint-Ignace. Est-ce que je vais entrer au monastère? Est-ce que je vais rester dans le monde? Est-ce que je vais me marier, pas me marier, enfin... Mais, disons, si on élargit un peu le champ, c'est quelle est la grammaire de la liberté, en fait. Et de la liberté à tous les niveaux, c'est-à-dire pas simplement au niveau de l'individu, ce qui est plutôt le champ des exercices spirituels. Quand on fait une retraite des exercices, c'est soi-même, quoi. Mais à un champ familial, enfin, au niveau de la famille, au niveau de toutes les structures sociales, au niveau de la famille, de la paroisse, de l'église, des états, de la communauté des états, à chaque fois, en fait, c'est un peu la même logique que cherche à développer Gaston Fessard en s'inspirant des exercices spirituels. Alors, encore un mot biographique, hein. Il a été très proche de théologiens qu'on connaît beaucoup mieux, notamment Henri de Lubac. Ça, vous connaissez tous Henri de Lubac. Aussi pas mal de Balthazar, même si Balthazar, à mon avis, l'accrochait moins à... Balthazar, c'est un peu une autre crèmerie quand même. Il accrochait un petit peu moins, je pense, à la pensée de Fessard que Henri de Lubac. Mais enfin, il avait beaucoup d'estime pour Gaston Fessard. Enfin, tout un groupe de théologiens qu'on appelait parfois l'école de Fourvière. Alors, eux-mêmes se moquaient de ça en disant c'est nous faire beaucoup de crédit. C'était en fait, à Lyon, il y avait Scolastica de jésuites, c'est un endroit où on met des jeunes jésuites en formation. Il y avait aussi des profs. Et donc, ça faisait une espèce de communauté où il y avait pas mal d'émulation intellectuelle avec donc, des jeunes jésuites qui avaient soif d'apprendre et puis des jésuites un peu plus âgés, mais pas tellement. Tous les profs de Fourvière étaient finalement d'assez jeunes profs. Hein. Lubac avait 30 ans quand il était prof là-bas. Fin. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là qu'il y a eu beaucoup une espèce de, comme, de renouveau assez important de la théologie en France, mais même dans le monde. Hein, ça a quand même eu par un mouvement, ce qu'on appelle le retour aux sources, notamment le retour aux sources patristiques. Le retour aux sources bibliques, c'était pas trop leur... ils étaient moins dans le coup. Mais enfin, le retour aux sources patristiques, beaucoup, beaucoup. Et puis, je dirais aussi, l'idée de manière plus générale, c'est de retrouver, encore une question de langage, mais un langage qui est apte à présenter le mystère chrétien au monde contemporain. Il y avait ce sentiment que la scolastique pouvait être très précieuse pour fixer les idées, voilà, pour un séminariste. Ouais. Mais enfin, dans une optique un peu plus missionnaire et dans une optique aussi de dialogue avec le monde, c'était important de renouveler un peu la manière dont on faisait de la théologie. C'est pour ça qu'on appelait ça la nouvelle théologie, mais c'est plutôt les ennemis de Fourvière qu'on appelait ça la nouvelle théologie. Les gens qui ont baptisé cette école la nouvelle théologie, c'est des gens qui étaient assez adeptes de l'adage médiéval « novitas falsitas ». Je ne suis pas totalement d'accord avec lui, etc. Enfin bon, c'est une autre question. Et alors Fessard, donc je vous dis un peu son héritage. On peut le mettre, il est difficilement classable, mais disons philosophiquement, on peut quand même le situer dans ce qu'on appelle la tradition spiritualiste française, qui est je les connais pas en fait ces gens-là, mais j'ai de l'estime sans les connaître. C'est la manière à nous, enfin c'est comme ça que nous les Français on fait de la philosophie en fait. C'est notre réponse à Kant, c'est notre idéalisme à nous, c'est notre race à nous en fait, hein. C'est donc ton ami. Alors on fait remonter ça même de Biran, qui était des fois on dit c'est un peu l'ancêtre de la phénoménologie. Alors il a fait tout un truc sur l'effort musculaire, il essaye de voir donc ça peut dépasser une vision jugée trop dogmatique de la philosophie. Et puis, bon, il arrive, il va très loin. Il s'est converti, d'ailleurs, je crois qu'il était plus ou moins agnostique, ce gars-là. Et puis, philosophiquement, donc, il est arrivé donc à une espèce d'élucidation de l'âme qui domine le corps, mais qui est ouverte à Dieu. Alors dans cette tradition, qu'est-ce qu'on met? On doit mettre alors Victor Cousin, je pense, des mecs comme Ravesson, Lachelier. Alors Blondel, ça c'est celui que je connais le mieux. Ça c'est vraiment, enfin c'est même le seul que je connais en fait, vraiment de tous ces gars-là. Alors Fessard, il est d'abord un peu dans cette ligne. Jean Labert, donc le maître de Ricoeur. Louis Lavelle. Bon, c'est des gars qui sont un peu pas Bergson quand même, un petit peu. Enfin, je pense qu'on peut le mettre un peu dans cette ligne-là. Vous voyez qu'il y en a qui sont encore connus, puis d'autres qui sont peut-être un peu tombés dans l'oubli. Ça, c'est, je dirais, la première filiation chez Fessard. Hein. Il a d'abord trouvé, et à l'époque de Pax Nostra, on est un peu dans une période de transition. Il était vraiment dans cette Maine de Biran. Il a fait son premier livre qui est paru, c'est en fait un mémoire universitaire, c'est sur la méthode de réflexion chez Maine de Biran, où il reprend les preuves de l'existence de Dieu chez Maine de Biran. Ensuite, Blondel, ça, il a été très influencé par Blondel. Et puis, suite à la remarque de, je crois, Auguste Valencin, encore un jésuite remarquable, mais un peu plus âgé, qui lui a dit, c'est rigolo, en fait, Blondel, c'est notre Hegel à nous. Et du coup, ça lui donnait l'idée d'étudier Hegel, ce que très peu de gens faisaient en France. On était restés bloqués beaucoup sur Kant, en fait. Hein, 19e, puis encore début 20e. Donc il s'est tourné vers Hegel, et ça a été très vite un des meilleurs spécialistes, un des rares spécialistes de Hegel, puis de Marx. Donc je dirais que là, avec Pax Nostra, qui est son premier grand ouvrage, module, le petit mémoire universitaire là dont j'ai parlé, mais disons, c'est son premier gros livre, après il en a écrit tout un paquet. Là, je dirais qu'on voit encore pas mal l'influence de Blondel, notamment la troisième partie de l'action, si vous avez lu la troisième partie de l'action. C'est courageux, hein. c'est très long, c'est génial, mais c'est très... Mais on sent que il est depuis un an au séminaire de Kojève sur Hegel, donc on sent qu'il est en train de basculer dans des catégories plus hegeliennes. Dans ce livre. Alors l'occasion de ce livre, en fait, c'est une discussion qu'il a eue, enfin une espèce de rencontre entre intellectuels plus ou moins catholiques, chez Gabriel Marcel, en 36. Alors je vais même avoir la date quelque part. Enfin, c'est juste très peu de temps après le 16 mars, pas 36, 35, le 16 mars, après le 16 mars 35, 1935, donc juste après la réactivation du service militaire en Allemagne, contre ce que prévoyait le traité de Versailles. Et du coup, bon, bah, évidemment, on s'inquiète, on se demande comment on va faire, et puis ça provoque un débat politique, évidemment, en France, entre des gens qui disent, bon, ben voilà, ils ont remis le service militaire, donc ils ont des intentions belliqueuses, on ne va pas mettre d'huile sur le feu, on s'écrase, et puis au contraire, donc, plutôt d'un courant pacifiste, et d'autres, au contraire, disaient, mais voilà, s'ils commencent comme ça, dans un an, c'est tout de suite qu'il faut bloquer. Et donc, on fonce et on y va. Donc, un courant plutôt belliqueux, on va dire, nationaliste. Donc, une opposition qui se forme assez nettement à suite à cette mesure, parce que les gens sentaient bien que ça risquait de ne pas s'arrêter là. Et à l'occasion de cette rencontre, Fessard développe assez rapidement l'idée que... en fait, il s'intéresse surtout aux nationalistes à ce moment-là. Donc ceux qui disent, bon ben voilà, ils ont violé le traité de Versailles, on a une excuse, entre guillemets, pour aller faire la guerre à l'Allemagne en Allemagne. Et lui dit, mais en fait, il trouvait que le raisonnement nationaliste était trop succinct, et surtout que si on l'analysait jusqu'au bout, il finissait par contredire les principes mêmes du nationalisme. C'est-à-dire que ça risquait de se retourner contre le nationalisme. Bon, alors il discute comme ça, il rentre à la maison, et puis il continue de réfléchir, il dit, mais en fait, c'était pas mal, mon idée. Et puis il se dit, mais il y a sans doute la même chose du côté des pacifistes. Et donc il aboutit aussi à l'idée qu'en fait, les pacifistes, en voulant à tout prix sauver la paix, mais du coup en ne faisant rien, et en disant, mais on va être toujours dans l'inaction, ça risquait en fait de se retourner aussi contre la paix. Ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, donc les nationalistes, ça se retourne contre eux, parce que si on y va, mais qu'on n'est peut-être pas les plus forts, ou quand même on n'a pas la légitimité qu'il faut, enfin, il y a plein d'arguments qui font que peut-être on va y aller, mais ça sera pour la ruine de la nation, parce qu'une guerre, on peut la perdre. Et les pacifistes, c'est qu'à force de ne pas vouloir, de jamais agir, jamais agir, ça peut être aussi encourager l'autre, qui peut avoir des instincts belliqueux, à m'envahir. Okay. Alors ça, c'est son intuition de départ qui va essayer de développer en s'aidant de Blondel et un petit peu de Hegel, et en réfléchissant, je dirais, sur le comment se fait-il que, sur un cas très concret et passablement important, on puisse avoir comme ça tant de difficultés à choisir la bonne position, parce qu'on a l'impression que c'est finalement chacun des deux clans, qui par ailleurs se détestent cordialement, n'est ni complètement dans le faux, ni complètement dans le vrai. Comment expliquer ce phénomène et comment comprendre que d'ailleurs c'est très souvent le cas finalement dans le champ politique. C'est-à-dire qu'en règle générale, on n'a pas tort parce qu'on affirme, mais on a plutôt tort parce qu'on tait. Enfin, on peut aussi dire des bêtises, hein, mais vous voyez, en général, c'est plutôt qu'on a une pensée incomplète, ou plutôt on n'arrive pas, on a vu quelque chose, ça peut être très noble, enfin une belle idée, un truc qui mérite d'être honoré, mais en fait on s'accroche à ça et on n'arrive pas à donner un visage concret à une décision qui en prendrait en fait en compte l'intégralité des paramètres. Alors il va... Est-ce que c'est juste qu'on est idiot ? Est-ce que c'est juste que ça nous fatigue ? Est-ce que c'est juste qu'on a l'intelligence paresseuse et que donc dès qu'on a une bonne idée, on dit bah, « je m'arrête là, une bonne idée suffit, j'ai pas besoin d'en rajouter une deuxième » Ou est-ce que c'est... Le phénomène se répète suffisamment pour nous faire penser que c'est inhérent, je dirais, à la manière dont les décisions humaines sont prises, que en fait, il y a des figures partielles de vérité qui vont apparaître dans l'histoire et qui vont me forcer à prendre une décision en intégrant ce qu'elles peuvent avoir de vrai chacune et en refusant ce que chacune peut avoir de faux. Mais j'ai besoin d'abord que ces vérités partielles m'apparaissent pour que ma liberté puisse se poser. C'est ça, un petit peu, en fait, qu'il va essayer de travailler. On pourrait dire que, en fait, les vérités historiques doivent d'abord nous apparaître sur le mode de la figure. Et qu'une fois qu'elles apparaissent sous le mode de la figure, donc ça sera toujours partiel, mais ça m'est nécessaire pour que ensuite moi, je puisse, au titre individuel, ou ça peut être aussi collectif, à l'échelle d'une nation, mener un discernement et, espérons-le, prendre la bonne décision. Donc il va développer tout ça dans ce livre, qu'il va écrire assez vite, en quelques mois. Il est publié alors en 1936. Mais en fait, ça va prendre, c'est un assez gros bouquin, et on peut dire qu'il y a mis, finalement, cette histoire de pacifiste et de nationaliste, ça a été l'occasion, ça lui a donné cette idée, cette réflexion, cette problématique sur les figures. Mais au bout du compte, dans Pax Nostra, il y a beaucoup plus que simplement l'occasion présente, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux, qu'est-ce qu'on fait face au réarmement de l'Allemagne, en fait, hein. Il y a vraiment des principes philosophique, je pense, plus que théologique, même si l'Église joue un rôle, notamment à la fin, mais sur vraiment, c'est presque un ouvrage de philosophie politique, on va dire. Alors, je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça, dans la mesure où, bon, je ne sais pas si j'ai bien tout compris. Et puis ça fait quelques temps que je l'ai lu, quand même, ce truc. Bon, alors là, j'ai dû résumer mal tout ce que j'ai expliqué là. Ah oui, si je peux quand même vous expliquer, vous dire plutôt, on va partir de la table des matières, en fait. Je pense que ça va nous aider à entrer dans la logique du livre. Bon, il y a trois parties. Une première partie qui s'appelle « Problème et principe de solution ». Alors ça, c'est justement, il va revenir sur la question du pacifisme et du nationalisme. Une deuxième partie qui s'appelle « Les éléments de l'ordre chrétien ». Alors c'est là qu'il y a au moins une idée que j'ai pigée, que je vais essayer de vous vendre. Alors je préviens tout de suite un malentendu. Quand il parle de l'ordre, il le prend un peu comme Peggy le prend, hein, c'est-à-dire que c'est pas ça n'en fait pas un disciple de Maurras, hein, pas du tout, hein, c'est ni des positivistes du Brésil, hein, Ordo et y Progresso, là, comme ils ont sur Ordre et Progrès. Quand il prend ordre, je pense que c'est dans un sens assez augustinien ou assez classique, finalement, c'est de l'ordre, c'est-à-dire en fait les éléments qui sont posés dans leur ordre. C'est-à-dire, nous, on dirait, si le mot ordre chatouille nos oreilles, Aujourd'hui, il faudrait peut-être dire les éléments de l'ordre chrétien, je dirais, de la logique chrétienne, de la hiérarchie, je sais pas, la hiérarchie, enfin des concepts. Comment est-ce que le christianisme fournit des éléments pour penser l'engagement des libertés, en particulier à l'échelon des nations? Et puis il y a une troisième partie qui s'appelle le progrès de l'ordre chrétien. Donc une assez grosse conclusion. Alors si je vais à la première partie, donc le chapitre premier, vérité et fausseté du pacifisme et du nationalisme. Avec deux sous-titres, le pacifisme ennemi de la paix, le nationalisme ennemi de la nation. Bon, paradoxe, mais c'est toujours cette idée que, selon la nature même des choses, si vous voulez incarner une vérité qui n'est qu'à moitié d'une autre vérité, l'histoire va se venger. Alors c'est là où on voit par exemple une influence de Hegel. Vous voyez, ça c'est assez hegelien en fait. Hein. Vous avez une idée, donc vous êtes obsédé par la paix, par exemple, obsédé par la nation. Puis vous allez prendre une décision en ne considérant que ça. Forcément, vous allez prendre une mauvaise décision selon la nature même des choses. Hein. C'est que on peut pas. Enfin voilà, on ne peut pas. Pour établir un ordre de justice internationale, on ne peut pas avoir comme seul critère la paix à tout prix ou la nation à tout prix. Or, votre mauvaise décision aura des conséquences, et l'élément que vous avez négligé dans votre idée, c'est justement celui qui va vous apparaître, vous allez le prendre en pleine figure, dans la contradiction historique, qui va faire que votre décision, finalement, va échouer. Donc ça, c'est le chapitre premier. Et le chapitre deuxième de cette première partie, il va travailler une notion qui lui paraît typiquement chrétienne et qui en fait est la clé pour situer cette décision de la liberté aux différents niveaux dont je parlais, niveau individuel, niveau familial, niveau national ou niveau international. Cette notion, c'est la notion de personne. On dit, alors ça c'est vraiment... Alors le chapitre 2 s'intitule « À la recherche de l'attitude chrétienne ». Et pour lui, justement, c'est la question de personne qui va permettre de recoller ensemble les morceaux qui ont été séparés par les attitudes partielles au plan politique. Gaston Fessard suggère que la personne, le concept de personne, quand on l'analyse, en fait, il est justement, il comporte deux facettes. Il y a une facette qui cherche à dire le particulier, l'individu, l'individualisé, on pourrait dire, ce qu'il y a d'unique. Souvent, quand on parle d'ailleurs de la dignité de la personne, c'est un peu à ça qu'on pense, on va dire, mais voilà, si tu disparais, dans la mesure où tu es une personne, ben, en fait, il y a quelque chose qui disparaît du monde, qui ne sera jamais remplacé, par opposition, ou ben, des objets, ou même... Ben, non. Dans un monde qui est peut-être infra-humain, un monde animal, où on peut dire, bon, on va remplacer, on peut, entre guillemets, remplacer les choses. La personne possède ce foyer d'unité, de particularité, d'individualité, qui fait qu'elle est unique. Mais ça n'est qu'une des facettes de la personnalité. Il y a une autre facette, qui semble difficilement conciliable avec la première, qui est plutôt celle de... qui vient plutôt du théâtre, en fait, hein, c'est plutôt étymologiquement le terme prosopone hein, qui nous donne ce sens-là, là où le premier sens venait plutôt du latin persona comme sujet de droit. Enfin, c'est le fait de dire qu'on a un rôle à jouer, et ce rôle, ben, d'une certaine manière, c'est un habit dans lequel on va glisser nos membres, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire, puisque c'est un rôle qu'on a à jouer, alors mettons, dans la société humaine. Dans la communauté des nations, ou dans ma famille même. Ça peut être, voilà, père par exemple, ou mère ou enfant, ce sont des rôles. Bon, mais il y a des rôles aussi à l'échelon supérieur, notamment à l'échelon de la nation, et à l'échelon international, et dans l'Église aussi. Donc c'est cette double facette de la personnalité qui va lui servir de principe heuristique pour comprendre comment... Finalement, la bonne décision doit être prise qui permet de dépasser l'opposition frontale du pacifisme et du nationalisme. Dans la mesure où Le premier aspect, celui qui vient plutôt du latin, qui est la persona, donc la personne en tant que sujet unique, le particulier, l'individuel, c'est quelque chose qui va plutôt être... la personne qui se... qui se regarde elle-même, qui essaye de trouver sa propre cohésion. Mais l'autre aspect de la personne, ce qui suppose de me glisser dans un rôle dont les coordonnées peuvent grandement m'échapper, puisque ça peut être par exemple la société qui me le donne, qui me l'impose ce rôle-là, enfin qui me l'impose, j'y vais librement, mais c'est elle qui a taillé le costume. Ça va plutôt définir, au contraire, une extériorité de la personne, c'est-à-dire un rapport à autrui. Et pour que la personne puisse trouver son accomplissement, en fait, il faut que grandisse de pair la dimension tournée vers soi, c'est-à-dire plutôt celle de la particularité, où je cherche à me poser moi-même par cohésion interne, et le côté recevoir de l'autre les moyens aussi de cette unité. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais compter que sur soi pour en gros être dans la paix à titre personnel. Il va falloir toujours que je... La paix, par un aspect, c'est quelque chose que je vais recevoir de l'extérieur. Mais inversement, je ne peux pas non plus recevoir uniquement de l'extérieur la paix, c'est-à-dire en fait l'achèvement de ma personne, sans y mettre aussi du mien, c'est-à-dire cet aspect de cohésion intérieure. Et même, qu'est-ce qu'on fait ça nous dit, c'est ce que finalement on peut retrouver chez les pacifistes et chez les nationalistes, dans la mesure où les nationalistes vont plutôt valoriser l'élément de cohésion intérieure, qui est peut-être l'élément, c'est peut-être l'élément le plus corporel, le plus charnel. Donc, les nationalistes ou les patriotes, on va dire, eux valorisent plutôt la dimension passée héritée, plutôt particulière, et même on pourrait dire, à un moment donné, il y a l'opacité du matériel, qu'on va dire, mais pourquoi tu veux défendre qu'est-ce que c'est la France? On va dire, t'amènes le gars à la frontière, lui, ce côté-ci, c'est chez nous, ce côté-ci, c'est pas chez nous. Vous voyez, ça passe très mal à l'universel, ce genre de... Alors que les pacifistes, eux, sont plutôt mus par une dynamique du futur. L'idée est plutôt une dynamique d'abstraction, plutôt une dynamique d'universalisation. Ça veut dire que donc, la personne, quand je disais la personne, elle a ces deux dimensions, finalement, l'opposition des pacifistes et des nationalistes, c'est à un plan collectif, au plan national et international, ça ne fait que extérioriser ce que je porte en moi comme tension ou comme parfois peut-être même opposition et qui est inhérent à la personne humaine. Alors ça, c'est donc cette petite réflexion sur la personne et sur le fait qu'il va falloir toujours trouver une espèce d'accord entre la dimension... passé et futur, matériel et universel, enfin le corps et l'âme, même dans certains côtés, vous pouvez presque dire que c'est rejouer autrement le corps et l'âme, les pacifistes seraient du côté de l'âme et les nationalistes du côté du corps. Donc la Blondel va en gros se livrer à une analyse à trois niveaux pour faire comprendre comment est-ce que, quelles sont les coordonnées justement du choix qui doit être posé au plan international pour essayer de garantir la paix entre les nations en étant dans une stratégie du win-win et pas de jouer le corps contre l'âme ou l'âme contre le corps, c'est-à-dire les pacifistes contre les nationalistes ou les nationalistes contre le pacifiste ou la personne comme particulier unique et la personne comme rôle que je reçois des autres. Alors là, il va se livrer à une démarche qui ressemble pour le coup beaucoup à celle de Blondel. Il va un peu quitter Hegel et retrouver donc des choses que Blondel explique dans la troisième partie de l'action. Et qui est l'idée que la personne va se complexifier progressivement à mesure qu'elle s'insère dans des ordres humains plus élaborés. Le premier ordre qu'il va considérer, c'est l'ordre de la famille. Il dit, il y a un premier un premier niveau où la question de la paix va se négocier. La paix, mais en fait, quand je dis paix, vous pouvez aussi penser accomplissement de la personne. Enfin, c'est même la grande quête philosophique. Hein, c'est qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce qu'être heureux. Enfin, bon, c'est, finalement, on retrouve un petit peu ces questions que la philosophie porte depuis le début. Donc, il s'agit en fait de se rendre compte que des individus atomisés, en fait, sont condamnés finalement à errer. On est bien obligé de mettre ensemble nos libertés, mais qu'il y a une espèce de prototype de cette alliance de liberté, qui n'est pas toujours considérée comme telle d'ailleurs par la philosophie politique, qui est le prototype de la famille. Pourquoi le prototype de la famille ? C'est à cause de l'altérité des sexes. C'est-à-dire que dans ce qui fonde la communauté familiale, c'est le fait qu'il y a une altérité réelle de l'homme et de la femme qui permet de négocier autrement que dans une pure opposition l'intérêt de chacun des individus. Vous voyez, si je prends comme modèle plutôt un modèle de type intérêt économique, c'est quand même moins fort. Vous voyez, on pourra toujours dire à un moment donné, on est plus concurrent que partenaire. Alors que l'avantage de prendre comme modèle d'alliance de deux libertés un homme et une femme, c'est de dire, mais pour faire une famille, enfin à l'époque en tout cas, on avait besoin d'un homme et d'une femme. Donc on était dans une situation où d'emblée, l'altérité, on sentait qu'elle allait non pas affaiblir ou peut-être même anéantir ce que je pouvais avoir comme consistance propre, mais au contraire le renforcer. Pour le dire en un mot, j'espère que je ne vous larde pas et que ce n'est pas soporifique, je cherche un peu mes mots, mais pour le dire en un mot, si je suis un homme, devenir père, c'est quelque père de famille, donc c'est quelque chose qui normalement, enfin je peux le prendre en disant, mais c'est vraiment une forme d'accomplissement que je recherche, il y a quelque chose qui est en moi, il y a un désir d'être père, il y a un désir. Mais ok, mais pour ça, j'ai besoin de m'ouvrir à l'altérité de mon épouse. Oui, c'est ça ce que j'appelle le win-win. Donc j'ai besoin d'un facteur qui se différencie réellement de moi, mais en fait, par cette différenciation même, je peux supposer que si ça se passe bien, eh ben, je vais franchir un saut qualitatif dans le côté de la personne qui est plutôt le côté tourné vers moi-même. Donc ça, c'est ce petit schéma-là qui lui sert de prototype pour chercher quelle est la bonne manière en fait, de poser nos libertés pour que ça soit systématiquement du win-win et pas des oppositions, on finit par se détruire les uns les autres. Donc, premier étage, c'était la famille. Alors là, ça marche bien parce qu'on pourrait dire que l'altérité féconde, elle est inscrite dans notre corps. Donc, il n'y a pas à la chercher trop loin pour la trouver. Après, au niveau de la nation, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il dit que ça passe par l'alliance des familles. On va essayer de rejouer au grand au-dessus cet accord des libertés qu'on avait au niveau des individus. On va essayer de le jouer au grand au-dessus. Et en fait, là, il dit c'est parce qu'on va voir un projet commun qu'une famille seule ne peut pas assembler. Il y a un moment donné où il y a des choses que... Il y a des projets, alors, je sais pas, économiques, d'aménager la terre. On peut prendre des exemples assez simples. Il va falloir qu'on se mette... C'est notre intérêt commun de mettre nos libertés ensemble. Mais ce seul facteur ne suffit pas. Alors ça, ce facteur-là peut faire émerger, à partir des familles, une communauté nationale. Bon, évidemment, c'est un petit peu caricatural, hein. Il y a l'individu, la famille, et puis les nations. Enfin, puis la nation, c'est un petit peu... Il y a très peu d'étages, mais disons, ça fait quand même comprendre la logique de Gaston Fessard. Donc, ces familles peuvent s'allier pour devenir une nation, mais elles ont besoin d'une opposition, d'une autre nation, pour qu'à un moment donné, les intérêts des familles pris en eux-mêmes finissent pas par faire prédominer l'égoïsme de la famille sur le bien commun. Et donc, alors c'est là un côté qu'on peut juger aussi un petit peu hegélien, mais c'est que, d'une certaine manière, il faut accepter qu'au niveau national, on a besoin d'une confrontation pour exister comme nation, qui peut se négocier de plein de manières différentes. C'est-à-dire que c'est pas forcément par le fait de se faire la guerre, c'est pas forcément par le fait que le sang va couler. Au contraire, il faut plutôt éviter ça. Mais c'est illusoire de dire, ben, pour éviter les guerres, on va dire qu'il n'y a plus qu'une seule nation, en fait. Mais on va dire tout le monde est français. Ce qui est d'ailleurs un peu une tendance, souvent les Français, ils ont un peu cette tendance-là. D'ailleurs, quand on interroge parfois les gens qui nous gouvernent et tout ça, ils disent c'est quoi être français ? Ils disent, ben, être français, c'est regarder de l'avant, valoriser ce que chacun a de positif. C'est des très beaux principes, hein. Mais avec, on dit, mais d'accord, mais du coup, en fait, tout le monde mériterait d'être français. Parce qu'évidemment, il manque, de ce point de vue-là, ils sont très pacifistes. Hein, il manque le côté un peu incarné et qui de fait, passe difficilement au rationnel. Donc, on a besoin, pour que des familles constituent ensemble une nation, il faut qu'il y ait un intérêt commun à construire, mais il faut aussi qu'il y ait une menace à conjurer. Et Fessard, alors, on peut le juger pessimiste ou réaliste, on peut contester, mais en tout cas, son idée, c'est qu'il est illusoire, utopique et donc dangereux, c'est exactement l'erreur des pacifistes, de croire qu'on va pouvoir tenir ensemble uniquement en disant construisons ensemble quelque chose, ça suffira à nous faire tenir. Oui, un truc tout bête, hein, mais c'est les compétitions sportives, je trouve que c'est une évidence, hein, que je dis, mais c'est une forme non sanglante de guerre. C'est pas complètement ridicule. Enfin, on peut trouver que c'est exagéré quand les gens au moment des Jeux Olympiques ou du foot, etc. On dit mais on peut dire mais c'est bon, quand même c'est un peu exagéré. C'est juste 11 mecs qui tapent dans un ballon. Puis tout le monde se met en bleu, on se met des trucs. Oui et non. Enfin, au niveau symbolique, c'est pas impossible que ce soit important que de dire les Allemands qu'est-ce qu'on leur a mis. Enfin, en général, c'est plutôt eux qui nous mettent au tir au but, mais vous voyez, ça fait comprendre cette idée que c'est très beau, ça serait magnifique, mais peut-être qu'au ciel ce sera comme ça, de dire pour être unis, choisissons simplement tous ensemble de peindre ce mur en rose, et en fait ça marche pas, il faut aussi qu'il y ait en face des types qui peignent un mur en bleu, et puis qu'on se regarde un petit peu en disant mais qu'est-ce que tu fais là, ouais. On a besoin d'une opposition, et tout l'art du politique c'est de négocier l'opposition pour que, sur le modèle de l'altérité homme-femme, qui est privilégié, parce que normalement, ça se passe pas toujours bien, mais enfin... Mais disons, on voit davantage les... Comment dire ? On a moins à réfléchir, enfin, je veux dire, on voit bien qu'on a besoin les uns des autres, enfin, l'homme a besoin de la femme, et réciproquement, alors qu'au niveau des nations, c'est moins évident de dire, mais comment est-ce qu'on va réussir à négocier une vraie altérité, où il y ait... un peu de concurrence, mais pas trop, pour que ça finisse pas par... on retrousse les manches et puis on envoie les chars, quoi, ou les avions. Donc c'est ça une des difficultés, en fait, de l'ordre politique. Alors, au niveau d'au-dessus, il y aurait justement l'idée... Alors, il parle de la Société des Nations, donc qui a été créée justement suite au traumatisme de la Première Guerre mondiale pour éviter que ça se reproduise, qui a saigné l'Europe. Il dit, bon, la Société des Nations, c'est quelque chose de... Le projet est très louable, mais d'une certaine manière, ça s'apparente trop au fait de... Ben, on va tous peindre un mur en rose. Enfin, c'est pas l'exemple qu'il donne, hein, c'est un peu mieux écrit. Ce que... Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on va, on a conscience tous, et on a tous conscience que la guerre, c'est un malheur pour tout le monde, en fait. Je pense que tous les hommes, même quand on tient des grands discours belliqueux, normalement... on sait que la guerre est un malheur plutôt qu'un bonheur pour l'humanité. Donc on va dire, on va se mettre ensemble, on va essayer de faire un parlement des nations pour positivement promouvoir, avoir un lieu de dialogue et promouvoir positivement tout ce qui va nous permettre d'éviter la guerre. Mais le problème, c'est que on risque de retomber justement dans cette erreur que c'est une unité trop faible. Il faudrait que quelqu'un nous menace collectivement à l'État. De la collectivité des nations pour que, en fait, la Société des Nations, conjuguée à cette menace collective de l'humanité comme telle, soit suffisamment forte pour que on soit de nouveau dans du win-win. Alors ça pourrait arriver si les extraterrestres nous envahissaient. Ça, de fait, alors ça fait un... Ça parle pas des extraterrestres, d'ailleurs, hein, mais ça fait un thème, on voit bien dans les... Dans les films, c'est un grand thème de science-fiction. Voilà, on passe notre temps à se faire la guerre, mais si un jour il y a une menace commune des Martiens qui vont nous envahir, peut-être que du coup ça nous motivera suffisamment pour créer cette unité. Mais s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas les Martiens, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là que notre ami Gaston Fessard a une idée très originale, ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous parler de l'autre idée, mais tant pis. C'est qu'il dit, mais en fait, ça c'est la troisième partie, je suis dans la troisième partie et pas dans la deuxième, c'est le fait de dire, mais peut-être que justement, c'est aussi le rôle de l'Église comme corps du Christ de jouer ce rôle d'altérité par rapport à la communauté des nations, avec suffisamment de différence pour qu'il y ait une vraie concurrence, mais en même temps, que ça soit suffisamment, comment dire, il faut que l'altérité soit telle que ça ne soit pas un autre nom de la société des nations, mais il faut aussi que les intérêts en jeu soient suffisamment différents pour que ça ne soit pas deux pays qui se font la guerre. Et c'est là où il dit, c'est l'interprétation d'ailleurs qu'il donne à Pax Nostra, c'est ça qui explique le titre, c'est qu'il dit, mais en fait, quand le Christ dit, quand saint Paul dit de Jésus-Christ, il est lui-même notre paix, parce que, si vous allez voir Éphésiens 2, en fait, sur la croix, Jésus a réconcilié ce que Fessard prend un peu comme le prototype des divisions entre les nations, c'est la division entre le peuple juif d'un côté et les nations païennes de l'autre. Ce qui veut dire qu'à ses yeux, si le Christ a été capable de réconcilier en un seul, qui est l'Église, Israël et les nations, ou au moins une partie d'Israël et une partie des nations, parce que tous les juifs ne sont pas devenus chrétiens et tous les païens ne sont pas devenus chrétiens, c'est que le Christ dans l'Église offre un principe de réconciliation à l'humanité comme telle, de manière totalement indépendante de la foi personnelle des hommes. Ça, c'est vraiment son idée, je pense, c'est un peu le sommet de ce bouquin, et c'est une idée originale, c'est-à-dire qu'il estime que même à un regard philosophique, si on adhère en tout cas à cette définition de la personne, donc de dire, mais il y a toujours la division, elle est d'abord dans nos personnes, et on va la retrouver un peu comme les fractales, on va retrouver cette même division avec toujours ces mêmes deux pôles du particulier et de l'universel, ou de mes pères qui m'ont engendré, et puis mes fils vers l'avenir, ou de... On va la retrouver à tous les niveaux. Et si j'ai compris que, collectivement, j'ai besoin, la société des nations a besoin d'une autre société qui, elle aussi, est capable de rassembler tous les peuples, mais pas comme une entité politique de la société des nations, parce qu'une société des nations bis, ça veut dire que, du coup, bah, vous aurez deux blocs antagonistes. Il n'y a qu'un seul candidat qui est l'Église. Et donc, finalement, c'est à son discernement. Alors, c'est très... Vous me direz, c'est peut-être très optimiste, ou ça manque d'humilité, ou je ne sais pas quoi, mais c'est un peu de dire, mais tant qu'il n'y aura pas l'Église, enfin, la seule manière de fonder une paix durable, au moins un plan philosophique, ça serait de trouver une manière pour l'Église et pour la société des nations, et pour la collectivité des nations, d'être capable de... En gros, d'être marié-femme, quoi, un petit peu, enfin, vous voyez. C'est-à-dire d'agir ensemble, chacun dans son ordre. Il ne s'agit pas pour la société des nations de prendre la place de l'Église. Il ne s'agit pas non plus pour l'Église de prendre la place des diplomates, mais d'essayer de trouver quelle est la fécondité qu'on peut avoir dans cette altérité, dans cette rencontre de l'Église et de la société des nations. Vous voyez, ça, honnêtement, je trouve que c'est... Alors, j'ai pas tellement l'impression... Sur le principe, je trouve ça très intéressant. J'ai pas tellement l'idée d'une réalisation concrète. Mais par ailleurs, j'avoue que je suis assez convaincu par les analyses, bon, même s'il y a un côté toujours un peu caricatural et simplificateur, hein, mais on peut dire que c'est quand même très compliqué ce qui fait tenir une nation, l'histoire, et puis ben, qu'est-ce que c'est qu'une nation? On pourrait reprocher d'ailleurs à Fessard d'être lui-même un peu trop omnibulé par justement l'émergence des nations, comme on définissait les nations au XXe siècle, alors qu'aujourd'hui on dit... On revoit un petit peu les choses, mais disons, cette idée qu'on porte en nous une scission et que dans notre personne, et que c'est illusoire de croire qu'on pourra avoir la paix à un niveau sans l'avoir aux autres. C'est-à-dire que si je veux être en paix au niveau national, il faut que je le sois. Si je veux que mon pays soit en paix, que ma nation ne soit pas divisée, ben, il faut que ma nation ne soit pas en guerre contre les autres pays, il ne faut pas non plus que moi je sois en guerre avec moi-même. Vous voyez, c'est un petit peu son idée, hein. Il y a une espèce de jeu de miroir entre ces différentes divisions et le fait qu'on a besoin de cette altérité féconde et qu'au niveau international, il n'y a pas de 36 000 candidats, en fait, hein, à part l'Église. C'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas 36 000 candidats. Vous voyez, je trouve que ça mérite quand même d'être examiné. Quelle heure est-il ? Oula, 22h20. Bon, l'autre idée, mais ça je vous le fais très très vite, ça c'est plutôt dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, quand il parle des éléments de l'ordre chrétien, il va revisiter la manière dont la justice et la charité doivent être vécues collectivement. Avec notamment une critique, il trouve que très souvent... Il trouve que trop souvent les chrétiens peuvent avoir des discours pertinents quand il s'agit de la charité au plan individuel. Et justement, au plan individuel, peut-être qu'on va trop parler de charité et pas assez de justice. Et au plan des structures collectives comme la nation, enfin la famille ou la nation ou la communauté des nations, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on va trop parler de la justice et pas assez de la charité. Ça, c'est un truc que, là encore, je trouve que c'est assez bien vu. Enfin, parmi les sujets... je prends un sujet parmi d'autres, hein, je ne vais pas du tout entrer dans le fond, mais je trouve la question des migrations, je trouve que c'est typiquement un sujet où j'ai l'impression que d'un côté, du côté de l'individu, y a que la, on parle que de charité et pas de justice. Et au côté, enfin au contraire d'ailleurs, en fait, toutes les positions peuvent être interverties, mais disons, je trouve qu'on a beaucoup de mal... à être cohérent dans une attitude à un niveau individuel et à un niveau collectif. Et ça, je pense que c'est... Là aussi, je me dis, c'est important que les principes qui vont me... Un problème, il a plusieurs niveaux, mais les principes que je mets en œuvre quand c'est quelque chose qui va me toucher très, très concrètement autour de moi, si au niveau collectif, en fait, les principes que je promeus, c'est exactement le contraire de ce que je fais au niveau individuel, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas... Donc il faut trouver un moyen d'articuler justice et charité à tous les niveaux. Au niveau de la personne, au niveau de la famille, au niveau de la nation et au niveau international. Et lui, alors, là encore c'est un petit peu dialectique, alors là je peux vous lire, il la donne un résumé, ça sera très dans son truc. En gros, il dit la fidélité littérale au contrat ne peut être l'unique solution des conflits de droit. Alors ça dépend quel est votre positionnement politique, mais ça peut irriter, ou même votre caractère, hein, mais ça peut... On peut avoir cette illusion de dire, puisque c'est écrit, on s'est mis d'accord, c'est dans la loi, ça a toujours été comme ça, on ne va pas bouger d'un pouce. La justice, c'est ce qui est écrit. Il dit, mais ça ne peut pas marcher, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est en amont du droit, et le droit est au service de cette réalité, c'est tout simplement la vie. Et il faut admettre que la vie, que ce soit au niveau individuel ou collectif, les situations peuvent changer grandement, et qu'une décision qui avait sa pertinence et sa justice dans une configuration donnée, ben, si les choses bougent trop, elle peut devenir injuste. Et le simple fait de dire « mais non, voilà, c'est écrit, donc j'ai mon bon droit pour moi parce que j'ai mon contrat pour moi », il dit « c'est insuffisant ». Alors, il va, donc il va du coup corriger cette conception unilatérale, partielle du droit. Il dit « le principe premier source de droit est la puissance créatrice » au service de l'ordre à établir, crée le droit. Ça, c'est une définition qui donne, un peu compliquée, hein, je la redis, la puissance créatrice, donc ça, c'est le côté vital, au service de l'ordre à établir, crée le droit. Conséquence de ces principes, la fidélité à la lettre du contrat, à quoi on appelle le défendeur en cas de conflit, ne peut servir de retranchement à un égoïsme impuissant. Et je redonne un peu mon exemple de migration parce que je trouve que on peut dire on a des traités, on a des... on peut pas... Ok, donc il y a des droits, il y a un droit international, je n'y connais d'ailleurs rien, mais enfin, il y a un droit international, il y a des... Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je ne sais pas si on est dans cette situation-là, mais on ne peut pas simplement dire ben nous, on est bien entre nous, démerdez-vous de votre côté. Vous voyez, je trouve qu'on sent bien qu'il y a une cohésion de l'humanité qui fait que ce soit pour des raisons de guerre, que ce soit pour des raisons de famine, ou tout simplement des raisons de fécondité. Hein, à un moment donné, je crois aussi qu'il faut accepter ça. Enfin, on ne peut pas être simplement sur le modèle un peu de la Suisse, ou de ces quartiers. Vous savez, il y a des villes aux États-Unis où ils veulent avoir zéro délinquance, et donc ils mettent, c'est que des riches, et puis ils mettent des miradors. Alors de fait, ils ont zéro problème. Mais je me dis, mais ça peut pas être le visage, enfin on voit bien, ça peut pas être le visage de la paix. Donc là, je trouve que le côté du défendeur, ça serait le côté en gros du mec qui se retrouve en position de privilégié, si vous voulez. Pas forcément qu'il est. Enfin, ça veut pas dire qu'il a fauté, ça veut simplement dire que. Bon, il a été du bon côté de l'histoire, il a été du bon côté du scénario, ce qui fait que pour le moment, le droit, en fait, est à son service. Alors évidemment, connaissant l'âme humaine, on ne va jamais dire « on va faire comme ça parce que c'est mon intérêt ». On va toujours parer son intérêt des mots de la justice. Toujours. Mais alors c'est vrai, c'est là où c'est subtil, c'est que, vous voyez que c'est pas... Enfin, ça se mesure pas, hein, c'est pas... Et dans une certaine limite, il faut accepter aussi qu'il y a des gens qui sont un peu des gagnants, des gens qui sont un peu des perdants. Mais si au bout d'un moment, on est 10 à bien se porter sur la Terre et puis qu'il n'y a que 5 milliards de gens en face qui crèvent de faim, là, vous pouvez être sûr que ce n'est plus la justice, même si vous avez tous les traités du monde. Donc c'est ça qui dit, ça ne peut pas servir de retranchement à un égoïsme impuissant. Donc ça serait l'aspect plutôt progressiste, on va dire ça, ou pacifiste. Mais deuxième principe, la fidélité à l'esprit du pacte, parce que c'est ça qu'on va invoquer, on va dire, parce que les gens qui veulent changer, eux aussi, ils ne vont pas dire c'est notre intérêt que le droit change. Jamais personne dit c'est mon intérêt, on est tous bien polis, on a l'arrêt de côté, on dit c'est toujours au service de la justice. Alors les autres, ceux qui veulent changer les choses, ils disent en fait, c'est pas être au service de la... En étant au service de la lettre, vous êtes promoteur d'une injustice. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la lettre du droit, mais c'est l'esprit du droit, c'est l'esprit des lois. Alors, d'où le deuxième principe. La fidélité à l'esprit du pacte qu'invoque le demandeur en cas de conflit ne peut se manifester telle qu'à la condition d'épuiser d'abord toutes les possibilités d'une fidélité littérale au contrat. C'est intéressant. Moi, ça me fait penser exactement à la règle d'exégèse du sens spirituel. Il y a une règle, un vieux principe exégétique qui dit que pour passer au sens spirituel dans la Bible, il faut épuiser le sens littéral. Oui, je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Et ça va lui permettre de dire comment, du coup, décider. C'est-à-dire, quand est-ce que c'est trop... il faut rester fidèle au droit et c'est pas être au service de l'égoïsme du privilégié, ou au contraire, il faut accepter que bon, voilà, la situation a changé, la puissance créatrice n'est plus du côté préservé par le droit, donc le droit devient injuste. Il dit, mais c'est en fait la dialectique de la charité et de la justice qui nous permet ça. C'est-à-dire qu'il faut à la fois accepter que si je ne cherche que la justice, j'aurai jamais la justice. C'est ça qui pêche un peu au niveau collectif. C'est-à-dire que les nations devraient, au niveau oui, de la collectivité nationale, alors c'est très... Enfin, là encore, je ne connais aucune nation qui a vécu ça, hein, mais de dire, il y a un moment donné où ben, peut-être il faut que j'accepte que par charité, je suis prêt à abandonner des droits. Si je ne suis pas capable de faire ce mouvement-là, qu'on comprend très bien au niveau individuel, hein, au niveau individuel, un chrétien, normalement, il n'a pas de problème avec ça, mais si je ne suis pas capable de le faire au niveau national, j'arriverai jamais à abandonner mes droits au seul titre de la justice. Vous voyez la subtilité du truc, hein, c'est qu'en réalité, on devrait, si tout était bien, on devrait être capable, simplement, par ces deux principes que je vous ai dit, d'abandonner les droits au nom... Enfin, d'abandonner... de changer la lettre du traité, du contrat, au nom de la justice, mais en fait, si je ne suis pas prêt à faire plus, c'est-à-dire de dire, en gros, bon, bah, ok, au niveau national, j'accepte une petite kénose, en fait, j'accepte, un peu comme dit Jésus, on veut prendre ton manteau, bah, donne aussi ta tunique, on veut prendre, quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Ça, on l'accepte au niveau individuel, mais fait ça, il dit, mais si vous voulez que ça marche au niveau national, il faudrait aussi qu'une nation ait suffisamment de grandeur pour être capable de le faire. Donc la justice a besoin de charité, et inversement, mais ça peut-être, en tout cas au niveau national, on a plus conscience de ça, c'est que la charité a besoin de la justice. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment donné où la charité doit dire, mais quand même, il vaut mieux, il y a des, comment dire, si on ne veut pas se limiter à des bons sentiments, il faut aussi être capable de figer dans une lettre une exigence qui est de l'ordre de la justice. Enfin, la nouveauté, à mon avis, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est de dire la justice a besoin de la charité aussi au niveau national. De dire au nom de la charité, on va faire la justice. Enfin, de dire la charité ne nous dispense pas de la justice, ça je pense que tout le monde l'accepte. Mais de dire la justice ne nous dispense pas de la charité, ça je pense que c'est effectivement plus original, surtout donc au plan politique que considère Fessard. Bon, voilà, c'était bien que fouilleux, mais je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose de Selmy-Gondy. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question sur cet ouvrage qui a été lu, hein, qui a été, il a eu quand même plusieurs personnes en parlent de manière très élogieuse, mais j'ai jamais eu le sentiment qu'il avait été mis en pratique par nos décideurs politiques. Mais enfin, les philosophes, ça les a intéressés, ce qui est déjà pas si mal. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation défectueuse de Pax Nostra? Oui, vas-y. Ben, si, enfin, tu peux très bien dire, si j'accueille tant de personnes qui sont pas forcément, je sais pas, par exemple, dans un état ou de santé ou de culture ou de trucs comme ça, à égal niveau dessus de mes concitoyens, ça veut dire que au niveau national, on va payer plus d'impôts. Tu vois, c'est ça. Mais le problème, c'est que il faut être prêt à le faire, voilà, de dire, il faut se laisser un peu émouvoir comme nation au titre de la charité pour que ça passe dans le droit, parce que sinon, ça sera de nouveau un dialogue de sourds. On dira, mais j'ai mon droit pour moi, j'ai mon droit pour moi. Il n'y a pas de raison, en fait, on dira toujours, il n'y a pas de raison. Mais ce qui est difficile, alors c'est l'autre aspect aussi difficile, c'est-à-dire que la puissance créatrice, elle a toujours le sentiment qu'en fait, c'est des vieux cons qui défendent leur... en face, t'as d'un côté une puissance vitale, une puissance créatrice, mais qui est à un niveau inférieur, c'est un peu dialectique, hein, c'est un peu égalien quand même, t'as un peu une lutte maître-esclave, tout le but est d'échapper à la lutte maître-esclave, justement. Du côté de la force vitale, on aura toujours l'impression qu'en face, t'as des retraités qui veulent pas qu'on diminue leurs avantages, et puis du côté des retraités, t'as juste l'impression que t'as des gens qui viennent et qui viennent te voler ce que t'as mis toute ta vie à amasser. Le problème, c'est que si on reste toujours sur cette conception, chacun est persuadé d'être dans son bon droit, et puis en fait, on n'arrive jamais à rien. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Oui, vas-y.
J'ai pas bien compris comment l'Église peut jouer le rôle d'opposition qui soude la société des nations.
Un domaine où je le vois, mais ça marche pas très bien, puis ça marche de moins en moins, hein, puis ça va encore, enfin, c'est une autre histoire, mais... Je me dis dans le domaine culturel, ça marche moins bien que le foot. Je pense que le foot, c'est... Enfin, voilà, le foot, c'est bien. Mais je me dis dans le domaine culturel, c'est typiquement un truc où je pense que l'Église et l'ONU, ou je sais pas, il n'y a pas un truc qui s'occupe de la culture, non ? L'UNICEF, un truc comme ça. UNESCO, voilà. Ou la FIA, non, la FIA, c'est la Fédération internationale de l'automobile, je sais plus. Enfin, il y a l'agence de l'ONU qui s'occupe de la culture. Je trouve que c'est typiquement un cas où on pourrait dire, chacun dans notre... On pourrait entrer en dialogue. Enfin, le modèle homme-femme, quoi. Chacun a besoin de l'autre. Il ne s'agit pas de prendre ta place, mais tu as un truc que toi seul, tu peux m'amener. Parce que, par exemple, il y a des œuvres qui peuvent apparaître comme des biens culturels au niveau national, mais qui, pour rester vivants, ont besoin qu'il y ait des chrétiens qui prient dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment pas français ce que je dis. C'est... Comment dire ça ? Prenez Notre-Dame, par exemple. Notre-Dame, je trouve que c'est typiquement le cas où on pourrait avoir un truc un peu d'une espèce de win-win. De dire, l'État pourrait dire, pour nous, voilà, c'est partie de notre patrimoine, on considère que Notre-Dame, c'est pas juste la chose des cathos, on a notre mot à dire, ça fait partie de notre histoire, et honnêtement, moi, je pense que c'est vrai. Enfin, à la limite, je serais un peu vexé qu'on me dise, bon, Notre-Dame, démerdez-vous, hein, c'est votre petite chapelle. Hein, c'est... Non, je pense que c'est plus grand que simplement l'édifice des catholiques de Paris à l'instant T. Donc j'admets, tu vois, j'admets que l'État ou la nation, enfin ce que tu veux, la France a un mot à dire là-dessus. Mais je me dis aussi, pour la, même quelqu'un de pas du tout catho peut dire, mais quand même, cet édifice, il avait d'abord, enfin ce qui fait aussi sa beauté, sa grandeur, et même je dirais presque d'un point de vue intéressé, qui c'est qui va l'entretenir, qui c'est qui va passer le balai au bout d'un moment. En fait, c'est tout notre intérêt que des gens continuent d'habiter ces lieux et de prier dedans, parce qu'on sent bien que ça leur donne une âme, en fait. Dans la première partie de Vérité et Méthode, Gadamer, il a tout un truc, où en gros, il descend en flamme le concept des musées sur la culture, oui, mais en fait, quand on met une statue dans un musée, c'est que d'une certaine manière, elle s'est déjà morte pour nous. Et ça, Gadamer, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais pas celui d'être chrétien. Il a toujours été athée, cet homme. Ça n'a jamais été un problème pour lui, Dieu. Ça n'a jamais posé problème. Donc tu vois, je pense que quelqu'un comme Gadamer, il pourrait tout à fait comprendre qu'au plan culturel, l'Église, alors peut-être pas dans tous les pays, mais enfin, je trouve en tout cas en Europe, c'est quand même, enfin, soyons clairs, c'est immense en fait ce qu'on a fait. C'est inscrit dans notre urbanisme, c'est inscrit dans nos mœurs, c'est inscrit dans nos lois, c'est inscrit, ça se perd un peu, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et je me dis, on pourrait trouver un moyen, enfin je dis l'Europe, mais c'est plus que l'Europe, hein. L'Europe c'est en Russie aussi, enfin dans tous les pays. Aux États-Unis, bon, c'est un petit peu différent, mais enfin, tu vois, je me dis, l'Église, elle a quand même... Non, mais tu vois, les chrétiens, je dis l'Église, même pas forcément l'Église catholique. Enfin, c'est vrai que l'Église catholique, elle a une structure plus... une structure juridique qu'on arrive mieux à cerner, mais on pourrait faire des trucs. Il y a peut-être d'autres domaines, j'en sais rien. Je me dis, dans l'éducation, c'est aussi quelque chose qu'on a fait. Enfin, on pourrait considérer... On pourrait essayer de trouver des choses... Ça allait de moins en moins. Il y avait la santé, il y avait... C'est vrai que pendant tout un temps, je pense que l'Église assurait des missions. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait bizarre, en tout cas en France, c'est pas vrai dans tous les pays, mais ça nous paraîtrait bizarre que ça, c'est pas l'État qui le prenne en charge. Mais je... J'ai pas d'idée géniale, hein, mais je trouve que ça vaut le coup d'essayer de se dire, plutôt que d'être toujours prisonnier d'un côté, un peu le franc-maçon, enfin le Grand Orient qui nous dit mort, mort au curé... Ou le gars qui dit mais finalement la seule chose bonne c'est que l'Église en fait ait tous les pouvoirs et que finalement revenons à la chrétienté, tu vois, je dis de dire essayons, et en tout cas c'est la tentative de Fessard, de dire essayons d'avoir d'accepter qu'il y a une paix peut nous être donnée qui suppose une altérité de type féconde et pas forcément l'altérité où finalement on va se retrouver dans la dialectique maître-esclave, parce qu'en fait la dialectique maître-esclave c'est justement parce que on a exactement la même prétention au même niveau, qu'on va finir par se battre et qu'à un moment donné, y en a un qui préfère la vie du corps à la vie de l'esprit, et donc il devient esclave, et l'autre qui préfère la vie de l'esprit à la vie du corps, il devient le maître, et puis il y a jusqu'à ce que ça s'inverse. Ce qui, alors c'est fantastique, hein, enfin je trouve qu'il y a une... Dans la dialectique maître-esclave, un pouvoir explicatif indéniable, mais s'il y a vraiment que ça comme moteur des... comme moteur de lien social, je trouve ça hyper triste, en fait. Je trouve ça hyper pessimiste. Et je refuse de croire que c'est vrai à l'échelle de l'homme et de la femme, par exemple. Ça me paraît faux. Enfin, je trouve que le raisonnement... pour ce point-là, d'ailleurs, Marx est plus... Il a vu un truc que Hegel n'a pas vu, parce que Hegel s'intéresse pas tellement à la relation homme-femme, alors que Marx, il en parle un peu plus. Oui, Marie.
Là, j'ai l'impression que donc on a des choses dont on sait qu'elles sont assez antagonistes, comme le pacifisme et le nationalisme.
Oui.
Et en fait, on assume leur altérité, leur complémentarité, en disant qu'on les dépasse et que c'est l'union entre les deux qui permet un beau monde, etc., la vraie paix. Et vous avez dit que ces vérités partielles doivent s'entendre, et j'imagine qu'on peut faire ça. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui vont appliquer d'autres choses, comme par exemple, je sais pas, conservatisme et, et progressisme, ce genre de trucs.
Oui.
Et en fait, ma question derrière, c'est. J'ai pas trop vu l'influence ignatienne, mais j'ai l'impression qu'il y a une influence un peu du calcédoine, dans le sens de la binarité. Mais le problème dans toutes ces histoires, pour éviter la dialectique du maître et de l'esclave, c'est que le modèle, comme vous avez dit, c'est un peu le corps et l'esprit, ça reste Dieu et l'homme, comme en calcédoine. Et le problème,
c'est que Dieu
est quand même supérieur à l'homme. Et du coup, c'est comme l'homme et la femme, quand on dit que Jésus est un homme, que Dieu est le Père. Est-ce que ça crée pas d'office ?
Attends, déjà, pourquoi tu dis c'est Dieu et l'homme ?
Enfin,
pour Calcédoine, tu dis ?
Oui. Et est-ce que quand on ne crée pas une binarité...
Ah oui, mais qu'elle s'éloigne, ça, tu penses à quoi? Pour qu'elle s'éloigne, c'est l'union des deux natures, sans confusion, sans séparation.
J'ai l'impression que ça fonde un peu tous les dépassements chrétiens des binarités.
Alors là, peut-être, j'ai peut-être dit oui trop vite. Je ne suis pas sûr que... Enfin, je ne suis pas spécialiste du tout de Fessard, comme vous vous êtes rendu compte, mais je ne suis pas sûr qu'il appliquerait cette espèce de dialogue toujours un peu tâtonnant quand même, hein, entre les différents, les deux éléments qui doivent se réconcilier. Je ne suis pas sûr qu'il l'appliquerait aux deux natures du Christ. Quelqu'un qui voit les deux natures dans un pur rapport dialectique, ça pour le coup c'est Martin Luther, c'est la christologie de Luther, elle voit les deux natures de manière très très dialectique. Je sais pas si... J'ai l'impression, si tu veux, que pour le coup ça se passe un peu mieux en Jésus. J'ai pas l'impression que Jésus doit conquérir aussi laborieusement son unité que nous devons conquérir notre unité à l'échelon de la personne, de la famille, de la nation, de la communauté des nations. Tu vois, je sais pas, du coup, je me dis, comme Calcédoine, ça nous dit d'abord l'union des deux natures, je sais pas si c'est vraiment ce modèle-là. Ce que je vois, moi, c'est que je sens qu'il essaye d'adoucir la dialectique de Hegel par des rapports d'une autre nature, en fait, que des rapports de pure lutte maître-esclave ou d'opposition. En particulier le rapport homme-femme. C'est-à-dire qu'en gros, alors là, effectivement, la question avec les exercices spirituels, ça, dans ce que j'ai dit, dans Pax Nostra, en fait, c'est pas si visible que ça. Ce sera plutôt dans une autre grande œuvre qui s'appelle La dialectique des exercices spirituels, qui est plus tardif, où il va reprendre des choses de Pax Nostra. Mais ça, là, je suis d'accord que ça se voyait pas tellement. Hein, mais.
Enfin, je voulais dire que les deux natures du Christ,
oui.
Ils voulaient
conquérir
leur paix. Oui. Mais que sur ce modèle d'union des contraires, on pouvait fonder. Justement, c'est le.
Oui, mais c'est pas une union des contraires, justement, dans le Christ. Tu vois, je trouve qu'on se ressemble trop. Nous, si on se casse la figure, enfin, si on se bat, c'est qu'on se ressemble trop. C'est plutôt, à mon avis, la ressemblance qui fait qu'on a, là, pour le coup, quelqu'un qui a beaucoup travaillé ça, ça serait Girard. On voit bien que l'homme et Dieu, ils sont quand même tellement pas sur le même plan qu'ils vont pas se battre pour savoir qui va posséder la vache qui est dans le champ, tu vois, alors que l'homme, deux êtres humains, ils peuvent être en concurrence, ils sont tellement près que, enfin tellement semblables, qu'ils peuvent avoir des intérêts communs. Mais disons, dans Pax Nostra, en fait, ce qui met il essaie de corriger ce qu'il y a de vrai mais partiel dans l'analyse de Hegel, et qu'on trouve tout à fait d'ailleurs dans le marxisme, hein, le fait de dire le droit c'est juste un rapport de force qui est fossilisé à un moment donné, c'est comme ça que le marxisme comprend, les bons marxistes comprennent le droit, hein, donc il y a toujours le moteur de l'histoire, et chez les marxistes comme chez les hegeliens, il est moniste en fait, c'est toujours la même dialectique qui se rejoue. Fessard, lui, il dit il n'y a pas que la dialectique de la domination maître-esclave, même si elle existe et elle menace toujours la paix, puisqu'en fait, c'est celle qui fait qu'à un moment donné, on va se faire la guerre, il y a une autre dialectique qui est la dialectique homme-femme, et qui ne se réduit pas à la première, elle ne fonctionne pas pareil. Et puis, un tout petit peu dans Pax Nostra, mais c'est juste deux paragraphes, et beaucoup, 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 beaucoup dans la dialectique des exercices spirituels, il dit qu'il y a une troisième dialectique qui entre en scène, qui, elle, est complètement surnaturelle, c'est la dialectique juif-païen. Et donc, il va falloir... Il dit notre liberté collective, elle doit jouer en combinant ces trois dialectiques. Il y a la dialectique maître-esclave, parce qu'il faut être réaliste, le péché existe. Ça veut dire que ça a l'air très généreux de prendre des décisions de la liberté comme si j'étais pas pécheur. Là, on me dira, bon, là, je me dis, non, c'était une illusion sur toi. Mais c'est aussi dangereux de prendre des décisions de ma liberté comme si l'autre n'était pas pécheur. Vous voyez, ça, c'est du faux amour, ça. Quand je pose ma liberté, il faut être réaliste. C'est-à-dire que je dois tenir compte du fait que ma liberté et celle des autres, elle peut faillir, elle peut avoir des mauvaises intentions, elle peut avoir donc la dialectique maître-esclave, le réalisme du péché nous force à l'intégrer. Ça, c'est une dialectique qui exprime le péché. Elle est surnaturelle, mais dans le mauvais sens. Ensuite, il y a la première dialectique, j'aurais dû commencer par ça, c'est la dialectique naturelle, qui est la dialectique homme-femme, qui, elle, en théorie, devrait faire que du bon. Mais évidemment, comme il y a eu la dialectique maître-esclave a perturbé la dialectique homme-femme, elle s'est greffée sur la dialectique homme-femme, donc ce qui explique que ça marche pas si bien que ça. Et puis il y a une troisième dialectique qui, elle, est surnaturelle, mais que du côté du bon, c'est la dialectique juif païen. Et donc faut, finalement, on a ces trois figures, en fait. C'est-à-dire que toute décision que je prends, elle est dans une constellation. Est-ce que je vais être l'homme, la femme, le juif, le païen, le maître, l'esclave? Il s'agit de me doser dans ces différentes... J'aurais 6 facettes, quoi. Est-ce que sur ce coup-là, je vais être plus homme, femme? Enfin bon, on devrait faire... Ça doit être le combinatoire, d'ailleurs. On va pouvoir faire un tableau et mettre des cases. Bon, allez. J'espère que c'était pas trop casse-pied. Et puis, on va dire les lèvres. Les complis. Non, s'il vous plaît. Non. Allez lire. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ça se lit bien. Allez.